The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien
préféré.
De retour de vacances.
Yeah! Woohoo! En fait, on est encore en vacances parce qu'on est en juillet aujourd'hui.
Oui, on enregistre en vacances.
On est en vacances. Ouais. Mais quand même, ça fait du bien. Pour ceux qui nous disent qu'ils s'ennuient, c'est vraiment gentil. C'est juste que des fois, ça fait du bien de prendre un petit break, de penser à des tueurs en série, oui. Puis des meurtres horribles, puis des gens qui... Oui. Meurt de manière absolument atroce. Et c'est ça. Fait que merci beaucoup de quand même nous suivre. Et voilà, on est de retour.
On est de retour. Ça vaut aussi du bien de prendre un congé aussi, comme, parce que ça prend beaucoup de temps faire ce podcast-là, quand même.
Vraiment. L'épisode que je vais vous raconter aujourd'hui, la gang, j'ai dû mettre 50 heures minimum là-dessus. J'ai tellement recherché ma vie sur ce cas-là. Écoute, bref. Mais avant de vous parler de mon cas d'aujourd'hui, on a quelques updates, potins, shout-out. On a tellement d'affaires à vous dire.
Oui, on a plein d'affaires.
On va essayer de condenser ça.
OK. Premier gros potin, Paul Bernardo fait une demande pour être transféré dans une prison au Québec.
Paul Bernardo, on s'entend que c'est le chum de Carla Homolka.
Oui, l'ex de Carla Homolka.
L'ex, c'est ça.
Pires tueurs en série qu'on a connus au Canada.
Exactement. On a deux épisodes là-dessus, si vous voulez les écouter.
Pas mal les épisodes les plus dégueulasses qu'on a publiés.
Oui, 100%. Ouais. 100%.
C'est ça. Il a demandé d'être transféré au Québec, puis ça a été accepté. Fait qu'il va transférer dans la prison de Lamacaza.
C'est où, ça?
C'est dans les Laurentides, au nord de Montréal. Ouais.
Très proche de nous autres. Il y a probablement plein de gens qui vont nous écrire.
Oui.
J'habite à côté.
Oui, ou du monde qui travaille à Lamacaza, peut-être, qui nous écoute. Vous nous
direz. On veut des détails.
Oui.
Aussi, on a des petites nouvelles sur... Ah oui, il y a tellement des gens qui m'ont écrit à la suite de notre épisode sur les dépeceurs de Gatineau.
Oui.
Pour nous dire que Hugo Girard, l'homme fort qu'on connaît si bien au Québec, à l'époque, il était... dans la police de Gatineau. Puis c'est lui qui a été un des premiers répondants sur le cas du gars qui s'est fait... qui a traîné un autre homme en dessous de son auto sur plusieurs kilomètres. Fait que c'est ça, c'est juste un fun fact. C'est Hugo Girard qui a été un des premiers à se pointer en tant que policier sur les lieux. Puis il en parle dans un autre podcast aussi que j'ai écouté. Si vous voulez aller l'écouter, j'ai complètement oublié le nom.
Googlez Hugo Girard podcast, vous allez le trouver.
J'ai un blanc de mémoire incroyable. Je suis vraiment sincèrement désolée. Ouais. Bref, fait que oui, c'est vraiment fou.
C'est drôle, moi, je savais pas c'était qui.
Hugo Girard, ouais.
Je lisais les messages de tout le monde qui était là. Ouais, c'est Hugo Girard. J'étais là. Ah, OK.
cool. C'est qui? Mais aujourd'hui, il est vraiment moins d'actualité, je pense. Il est plus.
C'est plus l'homme fort?
Je pense. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. Allô, si tu nous écoutes. petit point funny sur le même épisode d'Épaisseur de Gatineau. Il y a Annie et Anne-Sophie qui nous ont écrit qu'ils travaillent et qu'ils se connaissent pas. Là. Ils nous ont écrit les deux pour nous dire que à chaque fois que je disais un rapport présententiel, c'est pas ça. c'est pas comme... Ça sonne genre si t'es là ou pas, tu sais, une présence.
Ouais.
Mais c'est présententiel.
Comme une sentence.
T'as
ça a du sens.
Fait que merci les filles de nous avoir écrit pour
ça
nous dire.
Ça a bien du sens. Mélanie vient de me tuer du regard.
Ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. J'ai aussi un potin sur l'épisode de Claire Lortie. Je me rappelle plus c'est quel numéro, un de nos épisodes.
C'était, en plus, c'est l'épisode que j'ai enregistré avec Anthony.
Oui.
Ben, un des épisodes
que D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous a écrit pour nous dire que la voix d'Anthony était très sensuelle et agréable à écouter.
Oui.
Puis j'ai dit, j'allais faire le message. Il dort. Je peux pas.
On lui fera le message
il
après.
Il est midi 56.
C'est l'heure normale c'est de l'heure la normale. Sieste d'Anthony.
Exactement. Bref, Lara nous a écrit sur la messagerie Instagram pour nous dire ce qui suit. Elle dit, les parents de la mère de mon ami, sorry de la référence long comme mon bras, c'est elle qui dit. Elle dit, bref, sa famille avait un dépanneur à 5 canuts.
Oui, on sait qu'il faut prononcer le T maintenant.
Ouais, on s'est fait. Et il se rappelle que Claire Lortie était venue dévaliser leur dépanneur pour acheter tous les sacs de glace
qu'il
y avait à l'époque.
C'est drôle,
elle dit,
ça.
Direct dans la même période du fameux meurtre. Elle dit, il se rappelle du mari de Mme Lortie comme un vieux cochon qui la matait, même si elle avait 12 ans dans le temps. La petite qui était au dépanneur.
Oh,
elle dit, quand j'ai su ça, j'ai pas eu le choix de vous écrire.
Hein?
C'est capoteux. Elle a acheté, tu sais, genre...
Tous les sacs de glace.
Toutes les sacs de glace.
Comme, ah, je prépare un gros party.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas louche, mais après, quand t'entends, ouais, quand t'entends l'histoire, t'es comme colique. Ouais. C'est capoté. Et pour terminer, je vais faire un petit shout-out à Vanessa, qui nous a écrit sur la messagerie Instagram, que je trouvais ça vraiment drôle. Elle a dit, « Oh my God, les filles, j'ai commencé votre podcast à cause d'une amie et j'écoute en travaillant. J'ai tout fini en une semaine. »
Une semaine.
Elle dit, je vous adore, vous êtes top, bonne soirée. Une semaine, Vanessa.
Est-ce que c'est un record?
Je pense que oui.
J'aimerais que si quelqu'un a battu Vanessa, qu'il nous écrive.
Hey, on est rendu à quoi? 65 épisodes déjà?
Non, oui.
Une heure plus les bonus Patreon. Je sais pas si t'es abonné, mais.
Je sais pas.
Ça fait du contenu en tabarnouche. Parce que c'est peut-être un record. Écoute. Il y a aussi un autre shout-out que je vais faire à. Elle nous a demandé de l'appeler par son handle Instagram. Ouais. Qui est... Je pense que son nom, ça doit être Laurence ou Laurie. Ça s'appelle l'eau du robinet. Mais L-A-U. Elle dit, je livre des pièces d'auto à ma job et je vous écoute dans mes oreilles sans arrêt. Elle dit, je réécoute tous vos épisodes live. Fun fact, quand je rentre dans un garage pour aller leur parler puis déposer les pièces, je vous entends parler de personnes qui se font trancher la gorge puis ça me fait beaucoup rire. C'est quand même drôle. Fait que voilà. Merci beaucoup, la gang, de nous écouter. C'est vraiment gentil.
Oui.
Et de nous écrire. Et de tout. Donc aujourd'hui...
Qu'est-ce que tu nous racontes?
Écoute...
En fait, je le sais.
En fait,
tu me l'as dit.
J'aurais pas dit. C'est une suggestion de Catherine qui nous a écrit par la messagerie IG. Je sais pas si ça s'appelle. Elle nous a envoyé une photo d'elle, une selfie... qui est sur la chaise du dentiste avec des gros écouteurs, puis elle nous écoute.
Ah non, je l'ai pas vu celle-là.
Mais c'est ça... toi qui as répondu.
Pas vrai? Ah,
mais ça fait quand même longtemps. Okay. Mais elle a, tu sais, comme la bavette, tu sais, vraiment sur la chaise du dentiste. Puis là, elle nous a écrit, genre, que le dentiste trouvait qu'elle avait l'air vraiment détendue, mais elle nous écoutait dans ses écouteurs en même temps. C'est vraiment drôle, puis elle a pris une selfie.
Ah, c'est très drôle.
Sur la chaise du dentiste. Fait que, salut Catherine. Et c'est elle qui m'a donné la suggestion. Pour le cas d'aujourd'hui, qui est le meurtre de Joe Rose.
Mm-hmm.
C'est pour un petit clin d'œil au mois de la Pride.
Oui, c'est la Pride au mois d'août à Montréal.
Exactement. Donc, qui est un cas assez connu-ish, malgré qu'à chaque fois, aux quelques personnes à qui j'en ai parlé dernièrement que je travaillais sur ce cas-là, il y a quelques personnes qui ne savaient pas. C'était qui?
Ouais. Mais moi, je le connais parce que j'ai écouté le podcast Le Village.
Exactement.
Sinon, j'en avais jamais entendu parler avant.
Pour ceux qui ne savent pas, Le Village, c'est une série de Radio-Canada qui est sortie quand même assez récemment.
Oui.
Qui parle de ce cas-là et qui parle de beaucoup d'autres choses qui se sont passées dans Le Village.
Oui, c'est vraiment intéressant. Ça parle, c'est comme plus sur la lutte pour les droits des homosexuels au Québec. C'est vraiment intéressant.
C'est vraiment, vraiment intéressant. Mm. C'est bien recherché. Mm. Moi, je l'ai écouté, puis j'en parle aussi dans l'épisode, sûrement. Pas sûrement. J'en parle dans l'épisode, point. Parce que c'est moi qui l'ai écrit.
Point.
C'est fatigant avec ça. Désolée. Aussi, comme autre source, l'épisode 82 de Canadian True Crime. Aussi, le site web du Village de Montréal. Des articles de Southwire, CBC News et The Gazette. Voilà. Alors, on est parti.
Vas-y.
Petit prologue. Je peux te dire ça, prologue?
Oui.
Addendum?
Sujet amené.
le maire de Joros, ça fait partie de la communauté 2ELGBTQIA+. Là, je vais le dire une seule fois. Je vais vous dire qu'est-ce que les lettres veulent dire. 2E, c'est les deux esprits ou bispiritualité, qui est un terme pas autochtone. L, lesbienne. G, gay. B, bisexuel. T, transgenre. Q, queer. I, intersexuel. A, asexuel. Et le plus pour les personnes qui emploient d'autres terminologies. Voilà.
Voilà.
Donc, mise en contexte, on est à Montréal dans les années 90-92-ish. Pour la communauté de LGBTQIA+, c'est une période qui brasse vraiment beaucoup. Pourquoi? Il y a trois raisons majeures. Ouais, j'ai la misère à parler. Il y a d'abord l'installation du village à Montréal qu'on connaît aujourd'hui. Mm-hmm. Les premiers bars pour hommes font leur apparition sur la rue Sainte-Catherine entre Berry et Papineau pour créer ce qu'on connaît anciennement sous le nom de village gay, maintenant appelé le village Montréal quartier inclusif. Les bars pour femmes y arrivent un peu dans le secteur plus en 90-95. Okay. Ensuite, il y a l'épidémie du VIH qui est à son apogée.
Mm-hmm.
Et ça entraîne malheureusement l'augmentation de l'homophobie et des crimes homophobes. Selon la série Le Village de Radio-Canada, mm-hmm. je t'avais dit, je le mentionnerai. De 89 à 93, il y a 17 homosexuels qui ont été assassinés à Montréal. C'est énorme.
C'est fou.
Aujourd'hui, je vous parle d'un de ces meurtres-là, le plus connu, le plus marquant, celui de Joe Rose. Donc, la tragédie. On est le samedi soir 18 mars 1989. Joe Rose sort avec son ami Sylvain Dutille au club Cox sur la rue Montcalm dans le village. Joe invite son petit frère Jeffrey de 20 ans à venir les rejoindre, mais Jeffrey et son band, ils donnent un concert à Sainte-Thérèse ce soir-là. Mmh. Fait qu'il dit à son frère qu'il va peut-être les rejoindre plus tard. Jeffrey, il sait pas à ce moment-là, mais c'est la dernière fois qu'il va parler à son grand frère. Joe et Sylvain passent la soirée puis une bonne partie de la nuit, on s'entend, au club Cox, et Joe, ouvertement et fièrement gay, il porte une veste en cuir noir puis une casquette agencée aussi en cuir noir sur laquelle on peut apercevoir ses cheveux rose fluo. Selon ses amis, dans des entrevues que j'ai vues un peu plus tard après sa mort, ils disent, et je cite, que Joe avait toujours l'air très gay. c'est pas mes mots, c'est eux qui disent ça.
Attends, j'ai comme un questionnement. Est-ce que Rose, c'est son vrai nom de famille ou les gens l'appelaient Rose parce qu'il avait les cheveux roses?
Non, c'est son vrai nom.
C'est son vrai nom, ouais. OK.
Mais c'est je me drôle. Demande si lui, ce serait pas teint les cheveux de cette couleur-là.
À cause
pour...
de ça?
Ouais.
Ouais.
Je sais pas.
Peut-être. C'est drôle, OK.
Donc, à 3 h du matin, le club Cox ferme ses portes et Joe et Sylvain se rendent à l'arrêt d'autobus le plus près pour rentrer chez eux. Point. J'ai vraiment de la misère. C'est parce qu'il y a d'autres... Quand je lis, OK, je suis désolée, je lis l'histoire, mais c'est parce qu'il y a comme d'autres informations qui viennent dans ma tête, parce que quand j'écris l'histoire, tu sais, on peut, quand on écrit les histoires, on peut pas toutes mettre les détails, parce que sinon, on raconterait pendant 3 heures. Puis là, il y a comme des informations qui popent dans ma tête, puis là, je me dis, est-ce que je l'ajoute? Mais là, je viens de me dire, si je dis cette information-là, ça va voler un punch plus loin.
Ah ouais.
Tout ça, ça s'est c'est passé pas dans
ma tête.
C'est
pas pour rien que tu l'as pas mis là, tu sais.
C'est ça. Fait que je veux juste lire. Oui. Je vais m'en tenir à Mélanie du passé qui a bien écrit l'histoire. Puis Mélanie du présent va bien faire ça. Okay, je suis désolée. Donc, ils attendent l'autobus. Ils s'en vont chez eux. L'autobus arrive vers 3h30 du matin, puis les deux hommes montent dans le bus et ils se rendent à la station de métro Frontenac.
Qui est vraiment proche de où j'habitais avant.
Oui. Dans ce bus-là, il y a plusieurs personnes, dont un groupe d'une douzaine d'adolescents qui étaient vraiment agités. Ce groupe-là, il venait de passer la soirée dans un club pour mineurs, puis il s'était fait expulser du bar parce qu'il causait trop de problèmes. C'est des fauteurs de troubles. Dans le bus, le groupe d'adolescents remarque les vêtements, selon eux, très provocateurs de Joe, la petite veste de cuir et la casquette, et il commence à y lancer des insultes homophobes directes. On se rappelle qu'on est en 89.
Quand même. Mais ça fait pas... Ça fait pas si longtemps. Ça fait longtemps. Ouais.
Il y a même un des jeunes qui vole la casquette de Joe pour montrer ses cheveux roses à tout le monde, pour que ses amis puissent encore plus rire de lui. Joe, voulant pas causer de problème, décide d'aller s'asseoir avec Sylvain un peu plus loin, comme au fond du bus.
Mm-hmm.
En marchant dans l'allée, il y a un ado de 15 ans qui fait un croche-pied à Joe qui tombe. L'adolescent super arrogant, il demande à Joe de s'excuser. Joe, qui a une personnalité assez
forte
aussi, il se lève puis il répond d'aller se faire foutre. Et là, je mâche mes mots. Je pense que ce qu'il a dit, c'était « fuck you ». Quelque chose de moins. Parce que c'est anglophone. Donc, pour le groupe d'adolescents, le manque de respect que Joe vient d'avoir envers eux, ça doit être puni. Plusieurs jeunes se jettent sur Joe, commencent à lui donner des violents coups de poing et coups de pied. Témoin de la scène, la conductrice du bus tente de calmer les jeunes, mais évidemment, elle ne l'écoute pas. Dans ce genre de situation-là, la STM a mis en place un système d'urgence en deux étapes. La première étape, c'est d'afficher un message d'alerte à l'extérieur de l'autobus puis d'allumer des phares spéciaux de détresse. Là, j'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé le message exact de la STM, qu'est-ce qui s'affiche, mais j'ai trouvé celui, par exemple, de Winnipeg. Le message qui s'affiche, je vais te le montrer, ça dit « Urgence, appelez le 911 et ne pas monter dans le bus ». Check, je vais te montrer la photo. C'est comme en avant du bus de même.
Ah.
C'est là où c'est écrit, genre, okay, le nom. Le...
Mais ça, c'était-tu déjà en place, ce système-là, en 89?
Oui, oui. C'était pas comme ça, parce que ça, c'est plus des autobus récents.
Ouais, ouais.
Mais il y avait une manière de l'afficher. Je sais pas, en tout cas, bref. Je vais mettre la photo pour que vous puissiez voir. Là. Donc, la chauffeur active cette première étape-là, mais pas la deuxième, qu'elle aurait dû faire. Je t'en parle tantôt. L'autobus arrive à destination à la station de métro Frontenac. Tous les passagers sortent du bus, dont plusieurs membres du groupe d'adolescents, mais certains d'entre eux restent à l'intérieur pour continuer de tabasser violemment Joe et Sylvain. La conductrice tente d'aider les deux hommes, mais elle aussi finit par recevoir de nombreux coups.
Y avait-tu d'autres passagers à part les jeunes? Oui. Puis ils se sont juste poussés.
Exactement. C'est alors que la conductrice a décidé de déclencher la deuxième étape du système d'urgence de la STM. Elle presse un bouton qui lance un appel direct à la police, mais rendu là, il est un peu trop tard.
Ouais.
Fait intéressant, plus tard, la chauffeur dira en cours que pendant sa formation, on lui a enseigné d'activer la deuxième étape du système d'urgence de la STM juste si elle était en danger, pas les passagers.
Ouais.
Donc, tu sais, parce que les gens étaient comme, mais pourquoi t'as pas pesé le bouton? Puis elle est comme, mais c'est pas ça qu'on m'a appris. Elle faisait juste suivre sa formation, dans le fond. C'est pas de sa faute. Là. Quelques-uns des adolescents, ils ont des couteaux de poche qu'ils ont déjà commencé à utiliser. Joe et Sylvain reçoivent de nombreux coups de couteau, mais ils essaient quand même de continuer sa défense de peine et misère parce qu'ils sont juste deux. La conductrice reçoit, elle aussi, un coup de couteau. Paniquée, elle sort du bus pour arrêter un chauffeur de taxi puis lui demander de l'aide qui passait par là. Pendant ce temps-là, il y a un adolescent qui rentre. Lui était sorti du bus. Il rentre dans le bus. Un autre, lui aussi, un couteau à la main. Sous un élan de colère, il se jette sur Joe puis il transperce le corps du dos jusque dans la poitrine. Joe, il s'effondre. L'adolescent donne son couteau plein de sang à un de ses complices puis il s'enfuit à toute vitesse. Le complice, il se débarrasse de l'arme du crime en la jetant dans un banc de neige, parce qu'on est en mars. Puis lui aussi, il s'enfuit. Sylvain, il est super faible, il est atteint de nombreuses blessures, coups de couteau puis tout. Il tente tout ce qu'il peut pour réanimer son ami inerte sur le plancher du bus. À 4h30, le 19 mars 1989, Joe Rose est déclaré mort après avoir été transporté à l'hôpital. Sylvain s'en sort quand même bien.
Au moins.
Et la chauffeur aussi.
Ah, ouais, je connaissais l'histoire, mais qui risque c'est fâche?
Il y a tellement de choses à dire là-dessus, c'est dégueulasse. Joseph Rose est né le 27 décembre 1965 à North Sydney, au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Enfant, Joe déménage avec ses parents et son petit frère Jeffrey à Montréal. Il était homosexuel, ouvertement fier de l'être, et ce, depuis ses 16 ans. Ses amis, sa famille le décrivaient comme amical, sympathique, ouvert d'esprit, très charmant, une boule d'énergie à la confiance indestructible. Très ouvert d'esprit, Joe, il craint pas l'intimidation, il a le cœur sur la main, puis il est toujours prêt à militer pour les causes qui lui tiennent à cœur. Un militant, un mentor, mais surtout un exemple à suivre et un pionnier dans l'acceptation de la différence.
Dans ces années-là, c'était pas facile de s'afficher ouvertement en gay.
Zéro. Très jeune, Joe il comprend que sa confiance en lui peut aussi servir aux autres victimes d'intimidation, mais surtout victimes d'homophobie. Joe devient un activiste défendant des droits et libertés de la communauté gay de Montréal. Très actif au sein de la communauté 2ELGBTQIA+, Joe est bien connu de tous. En 83, il tombe gravement malade par contre. Il a de la fièvre sévère, il souffre d'épuisement, de la fatigue chronique. Il contracte absolument tous les virus, toutes les bactéries qu'il croise. Ça va vraiment pas.
Oh non.
Il perd aussi énormément de poids. Après plusieurs tests prises de sang, il apprend qu'il est séropositif. Mmh. Il est donc infecté par le VIH. Là, juste parce que tu viens de dire ça, il y a le sida, OK. J'ai fait des recherches parce que moi, je savais pas c'est quoi la différence entre le VIH et le sida. Je t'explique.
Vas-y.
Donc, le virus de l'immunodéficience humaine, ça attaque les cellules qui luttent contre les infections, rendant le corps vraiment vulnérable aux maladies. C'est pour ça que lui, il contractait tout genre... Quelqu'un a de choum autour de toi, tu l'attrapes.
C'est ça, ça détruit ton système immunitaire.
Le virus, il se transmet par les fluides corporels, comme le sang, le sperme ou le lait maternel, mais, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, pas par la salive. Sur le site de Santé Canada, je trouve ça vraiment cool, il y a une section qui s'intitule « Changer les attitudes à l'écart du VIH ». Puis, ils mentionnent les préjugés par rapport au virus. Ils disent, entre autres, que le VIH, il se transmet pas par les bisous, les câlins, les poignées de main, les sièges de toilette, le partage de nourriture, les piqueurs de moustiques et bien d'autres. C'est beaucoup des préjugés qu'il y a beaucoup de gens qui ont. Ça se transmet pas comme ça. Il y a aussi une distinction à faire entre le VIH et le sida. Le sida, c'est pas une maladie, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise. C'est le stade le plus avancé de l'infection du VIH. En gros, si le VIH n'est pas traité, il peut évoluer vers le sida. Donc, tu peux être infecté par le VIH sans jamais développer le sida. Mais si tu as le sida, c'est forcément que tu es déjà infecté par le VIH. Tu catches?
Ouais, OK. Intéressant.
Je trouvais ça aussi important de spécifier qu'aujourd'hui, les traitements sont hautement efficaces puis que les personnes sous traitement qui maintiennent une charge virale indétectable, ils n'ont aucun risque de transmettre le VIH à leur partenaire sexuel. Fait que c'est vraiment moins intense qu'à l'époque.
Puis même, d'ailleurs, j'en ai entendu parler cette semaine, que c'est le sixième cas de personnes guéries du VIH complètement par une greffe de moelle osseuse.
Wow!
Ouais.
Bon, tu vois.
C'est le sixième cas dans toute la Terre, toute l'histoire. Là,
mais, quand même,
mais quand même, ils sont comme en train de développer comme des traitements qui guérissent complètement. Là. Pas juste qui font que la personne reste en vie, là, comme les traitements qui existent.
Ah, c'est capoté, ça. Il y a Statistique Canada qui dit qu'à la fin de 2020, il y avait 62 790 Canadiens qui vivaient avec le VIH, puis que 24,6% d'entre eux sont des femmes. Donc, ça touche pas juste les hommes.
Attends, c'était quoi la proportion canadienne? J'ai zappé.
Il y a à peu près 63 000 Canadiens.
63 000 Canadiens.
Puis là-dessus, il y a 25%, donc le corps que c'est des femmes. Je savais pas, moi, que les femmes pouvaient avoir le VIH.
Ben, moi, je savais, mais j'aurais pas pensé que c'était aussi élevé.
Le corps, quand même.
Proportion, ouais.
Donc, bref, comme j'ai mentionné, c'est la fin de mon petit cours 101 sur le VIH-SIDA. Donc, comme j'ai mentionné, on est en 83. C'est le début de l'épidémie du VIH. À l'époque, on savait comme pas grand-chose du virus ou de son mode de transmission. Tu sais, tout ce que je viens de te dire, on savait pas tout ça. On savait juste que les hommes de la communauté gay étaient les plus touchés. Donc, les médias se faisaient un plaisir. Et quand je te dis un plaisir, j'ai tellement lu d'articles de l'époque qui parlaient du virus comme étant, et je cite, « le cancer gay ».
Oh my God.
Rien à ajouter. Donc, Joe témoigne la situation et la vivant lui-même. Il décide de militer pour améliorer les conditions des personnes vivant avec le VIH. Il commence par annoncer la nouvelle à sa famille, avant de put it out there. Jeffrey, son petit frère, il est dévasté, évidemment, mais il accepte quand même tout de même bien la nouvelle. Les parents de Joe, un peu moins. Le reste de la famille, ses oncles, tantes, cousins, cousines, ils coupent complètement les ponts.
Aïe.
Et là, Joe, il est comme physiquement et mentalement très faible.
Ouais.
Donc, il choisit de se protéger. Il s'éloigne un peu de ses parents, de sa famille pendant un certain temps parce qu'il ne peut pas gérer le stress de la situation. Heureusement, il y a quelques mois plus tard, ses parents le recontactent pour faire à nouveau partie de sa vie. Quand il est décédé, ses parents faisaient partie de sa vie. Joe continue de militer pour les conditions des personnes vivant avec le VIH. Il se dévoue tellement à la cause qu'il décide de s'inscrire en sciences infirmières au Collège Dawson. Pendant ses études, il écrit une chronique sur les droits des homosexuels dans le journal du collège, puis il met sur pied le club, etc., pour créer un espace sans jugement aux étudiants de la communauté de LGBTQIA+, et les autres étudiants aussi. Le club existe encore aujourd'hui. Il y a même une plaque commémorative qui a été qui est sur le mur du club. Je te la montre. Pour la commémorer son 30e, le 30e anniversaire de son décès. En 2019.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Après quelques années, le système immunitaire de Joe, il devient tellement faible que son corps n'a plus la force de lutter contre les infections. Son VIH se transforme en sida, donc le stade le plus avancé du VIH. En 1980, il existe juste un médicament qui allège les symptômes du sida qui coûte 120$ par mois. À l'époque, c'est beaucoup d'argent.
C'est beaucoup, ouais.
Et en tant qu'étudiant, Joe, il a vraiment pas beaucoup d'argent. Il trouve à peine le moyen de payer son appartement à 400$ par mois plus sa médication. Il n'y arrive pas. Après quelques mois, il n'a même plus assez d'argent pour s'acheter de la nourriture. Il doit donc comme faire le choix entre manger ou sa médication. Donc, il choisit d'arrêter sa médication pour pouvoir manger. Son système immunitaire, il se met à dégrader dramatiquement. Il souffre maintenant d'un cancer de la peau et de l'intestin, puis il a des graves problèmes neurologiques. Ça va vraiment pas. À ce stade-là, Joe est obligé d'abandonner l'école par manque de force, mais il tient tout de même à avoir un semblant de vie normale. Et il reçoit à ce moment-là une allocation d'invalidité du gouvernement, puis il travaille à temps partiel comme DJ dans un bar du village.
Quand même.
Ouais. Il est aussi à fond dans son activisme pour les droits de la communauté. Il adore aussi provoquer, il continue à provoquer, il attire l'attention pour faire parler. Il porte souvent un chandail écrit dessus « Personne vivant avec le sida ». Il fait des entrevues. C'est il a fait une entrevue télévisée avec ce chandail-là. C'est en 80. Là. C'est quand
les
même
gens
bold.
Avaient peur d'approcher quelqu'un qui avait le sida là, à cette époque-là. Mais c'est peut-être que le fait comme qu'il savait qu'il allait mourir bientôt, ça faisait qu'il n'avait pas peur de rien. T'sais, il n'y avait rien à perdre.
Exact. Ouais. C'est ce que je pense aussi. Il travaille aussi à la création d'une section montréalaise du groupe d'activisme politique new-yorkais ACT UP. ACT UP, les lettres, ça veut dire Coalition contre le sida pour libérer le pouvoir. Donc ça, c'est basé à New York, puis lui, il voulait comme ouvrir ça à Montréal aussi. À 23 ans, Joe il atteint la phase terminale du sida, puis il passe beaucoup de temps à l'hôpital pour recevoir un traitement de 5 injections par semaine. Il lutte contre des pneumonies récurrentes, ses cheveux tombent, il perd plus de 30 livres, ça va vraiment pas. Au moment de sa mort, c'était ça l'information que j'ai pensé tantôt puis que je voulais pas dire, il habitait dans un centre pour personnes atteintes de ce virus-là, où tu peux recevoir tes injections.
Des soins, puis...
C'est ça j'allais dire au début,
mais là, t'aurais...
quand j'ai dit
point. Quand j'ai le punch.
Exactement. Ouais. Voilà, je vais vous expliquer comment mon cerveau réfléchit. Donc, Joe, il sent que la fin est proche. Il a même fait ses propres arrangements funéraires pour pas que ses parents et son frère aient à s'en occuper. Il sait juste évidemment pas que c'est pas du sida qui va mourir. Il y a eu beaucoup de répercussions après le meurtre de Joe Rose. C'est pour ça que c'est le plus connu des 17 meurtres qui ont été commis dans ces années-là. La raison pour laquelle le meurtre de Joe Rose représente un point tournant dans les droits et libertés des membres de la communauté de LGBTQIA+, c'est parce qu'avant le meurtre de Joe Rose, les gens avaient comme pas conscience des réels dangers de l'homophobie. Mais là, ils sont en colère puis sont prêts à se battre. Parce que Joe, il était vraiment connu dans la communauté. Il était actif, il militait beaucoup, il était partout. Tout le monde le connaissait. Fait que là, eux autres sont comme, vous nous avez enlevé Joe.
Ouais. D'une façon horrible.
Ça n'a aucun sens.
Injustifié totalement.
Le 21 mars 89, donc 2 jours après l'assassinat de Joe, la communauté organise une manifestation spontanée contre l'homophobie. Il y a à peu près 200 personnes qui se rassemblent pour marcher jusqu'à la station de métro Frontenac, là où Joe a été assassiné. Il y a 10 voitures de police avec à bord 15 agents qui se présentent sur place et qui menacent les manifestants avec des matraques. Les manifestants, heureusement, ils réussissent quand même à se rendre jusqu'à la station Frontenac parce qu'ils sont vraiment plus nombreux que les policiers. Trois mois plus tard, a lieu à Montréal la 5e conférence internationale sur le sida. C'est un important...
Un important
rassemblement, merci.
Pour okay, la... C'était rassemblement et important
ouais, mélangé. C'est ça, ouais. Un important. Mm. Ouais. Un important rassemblement pour la santé mondiale qui a lieu tous les deux ans. À cette conférence, il y a des scientifiques, des médecins, toute la communauté de la santé, qui discutent des données les plus récentes pour accélérer la lutte contre le VIH. Étrangement, il n'y a aucune personne vivant avec le virus qui a jamais été invitée à cet événement-là.
OK.
Fait que les militants des droits des personnes vivant avec le VIH, eux autres, ils prennent la décision de s'inviter eux-mêmes à la séance d'ouverture de la conférence.
Bonne décision.
Mais pourquoi on n'a pas notre mot à dire sur nos conditions? Donc, il y a un bus transportant la section new-yorkaise d'ACT UP, la coalition contre le sida pour libérer le pouvoir, qui débarque à Montréal. Ils sont rejoints aussi par AIDS, qui est Action Now. AIDS Action Now, pardon, AAN, qui est un autre organisme. Pour un total d'à peu près 300 manifestants. Le groupe prend possession de la scène puis retarde la conférence, faisant attendre le premier ministre Brian Mulroney, à l'époque, qui était là, dans les coulisses. Il pouvait pas sortir.
Il y avait des manifestants sur scène.
Ouais, eux autres, ils étaient sur scène, ils brandissaient une pancarte géante qui dénonçait l'inaction de Mulroney et de son gouvernement en matière de lutte contre le VIH. Ils étaient très fâchés. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les traitements médicaux ils étaient extrêmement limités puis vraiment coûteux, puis que le gouvernement avait absolument... Il faisait absolument rien pour améliorer la situation. Il s'en foutait carrément. Il y a quand même un point positif qui est sorti de ces actions-là. De tout ça a résulté une déclaration internationale des droits et des besoins de la personne atteinte du VIH, connue sous le nom de Manifeste de Montréal 89. Ce manifeste-là, il a comme pour but de changer la façon dont les milieux scientifiques, médicaux et gouvernementaux perçoivent les personnes infectées par le VIH, en plus de revendiquer la reconnaissance et l'implication des personnes vivant avec le virus et le sida. À la 24e édition de cette conférence-là, qui a eu l'année dernière, en 2022, la COCQ-SIDA a publié une nouvelle version du manifeste qui mentionne l'importance d'inclure les personnes infectées au cœur des actions et des décisions prises par le gouvernement. Donc, ça a fonctionné.
Mm-hmm. Ça a fait bouger les choses.
Exactement. Ouais. Grâce, c'est plate à dire, mais au meurtre de Joe Rose. Un peu après les événements de la conférence internationale sur le sida, en 89, il y a d'autres groupes de soutien communautaire qui ont commencé à voir le jour à Montréal. Il y a l'une d'entre elles qui s'appelle Queer Nation, qu'on connaît quand même bien. C'est eux qui ont permis à la communauté de LGBTQIA+, de se réapproprier le mot « queer », qui était utilisé comme une insulte à l'époque.
Ouais.
C'est eux aussi qui ont inventé le slogan « We're here, we're queer, get used to it », qui veut dire « On est là, on est queer, habituez-vous ». C'est ma traduction personnelle. Merci. Aussi, enfin, comme Joe Rose l'avait souhaité, l'association ACT UP a créé une section locale à Montréal, dans le but d'améliorer la communication entre les différents groupes montréalais de groupes contre le VIH. Donc, leur première action a été de commémorer Joe Rose lors du premier anniversaire de sa mort en 90. Au moins, tu sais, ça l'a vraiment fait bouger les choses. C'est pour ça que c'est le plus connu. Après tout ça, malheureusement, il y a de nombreux événements tragiques qui se sont déroulés par rapport à la rage de la communauté et de la violence des autorités. La communauté de LGBT TQIA+, et maintenant, malgré elle, en guerre contre la police. Il y a des événements comme le Sex Garage, de nombreuses manifestations, il y a un dead-in, et puis vraiment plusieurs choses qui ont eu lieu. Tu sais quoi, un dead-in?
Non, je ne savais pas c'était quoi.
C'est comme un bed-in, comme Yoko Ono a fait avec John Lennon. Oui. Mais un dead-in, c'est... ils ont fait ça, ils se sont pointés à la place des Jardins, ou la place des Arts.
Ouais.
Puis ils se couchent par terre, puis ils font comme s'ils sont morts.
Ah, OK.
Puis le but, c'est pour montrer l'inaction du gouvernement envers certains. Ben, eux, c'était les droits des personnes vivant avec le virus. Et comme l'idée derrière ça, c'est qu'il faut que la police les prenne physiquement. Ils sont obligés de faire quelque chose, de poser une action pour les enlever de là, parce que les autres sont morts, entre guillemets, tu comprends? Donc, ils sont obligés de poser une action. Il les force à poser une action. Tu comprends?
C'est hot.
J'ai googlé, je savais pas tout ça. Pour nos abonnés Patreon, je vous raconte ce mois-ci l'histoire carrément enrageante du sexe garage qui oppose violemment la police aux membres de la communauté. C'est violent.
Mm-hmm.
Je vous raconte ça, les abonnés Patreon. Là, tu te demandes, Hélène, ma chère co-animatrice. J'ai écrit ça.
Qu'est-ce que je me demande?
Là, tu te demandes deux points. Est-ce qu'ils ont trouvé qui a assassiné Joe Rose?
Oui, hey, c'est vrai, j'avais, ben, en fait, j'avais complètement oublié.
Voilà.
J'étais partie dans l'histoire des droits des droits de la communauté. Puis,
c'était exactement ça, mon but. Ouais. Et là, j'ai écrit.
Tu m'as eu.
Eh bien, j'y arrive. J'ai vraiment écrit ça. J'avais prévu tout ça. En interrogeant les autres passagers du bus, parce qu'on se rappelle qu'il n'y avait pas juste le groupe d'adolescents.
Il y avait les autres passagers.
Et les témoins à la station de métro Frontenac, les policiers ont pu avoir des descriptions quand même assez claires des agresseurs. Mm-hmm. Il y a 4 personnes au total qui sont arrêtées. 3 mineurs de 14, 15 et 15 ans, qui sont évidemment sous une interdiction de publication, et un jeune homme de 19 ans qui s'appelle Patrick Moïse.
Et c'est jeune.
C'est extrêmement 14,
jeune. 14, 15, 16.
Extrêmement jeune.
Tabarouette.
3 mois après le meurtre, les 3 mineurs comparaissent devant le tribunal de la jeunesse. Mais il y en a juste une qui a été jugée là-dedans. Le premier adolescent de 14 ans, il est accusé de complicité après les faits, mais il plaide coupable d'agression. Il est condamné à 11 mois de détention dans un centre pour jeunes délinquants. Quand même
douce. Il s'en sort bien.
Le deuxième adolescent de 15 ans, il est accusé de complicité après les faits, d'agression causant des lésions corporelles et d'obstruction à la justice. Pourquoi? Parce que même s'il n'a pas poignardé fatalement Joe, c'est pas lui qui a fait, c'est lui qui a eu l'arme du crime dans ses mains
qui l'a jeté dans la neige.
D'ailleurs, le couteau en question n'a jamais été retrouvé parce qu'il y a une déneigeur qui est passée
et
qui l'a ramassé ce soir-là, fait qu'on ne l'a jamais retrouvé. Le juge a acquitté l'adolescent de l'accusation de complicité après les faits en déclarant, je cite, il n'essayait pas de cacher le couteau pour protéger ses amis. Il le faisait parce que ses empreintes digitales étaient dessus et qu'il voulait se protéger. Pour cette raison-là, il est reconnu coupable d'obstruction à la justice et d'agression causant des lésions corporelles. Il est condamné à 6 mois de détention dans un centre pour les jeunes.
C'est pas beaucoup.
Le troisième et dernier adolescent de 15 ans, c'est lui qui a donné le couteau et qui a tué Joe.
OK.
Lui est accusé de meurtre au premier degré, mais il plaide coupable à homicide involontaire. Il a été condamné à 3 ans de détention dans un centre pour jeunes délinquants. Meurtre premier.
Ouais, c'était un mineur, fait qu'ils ont eu moins, là, mais...
3 ans. Meurtre premier. Sérieux.
Ouais. Il a plaidé coupable à pas meurtre premier, ouais.
Homicide involontaire.
Ouais.
3 ans.
Mais 3 ans, c'est pas beaucoup. C'est bref.
Un an après le meurtre de Joe, le procès du seul accusé majeur a eu lieu. Les preuves montrent que Patrick Moïse a frappé Joe à la tête avec une carabine à plomb.
Mmh.
Il y avait ça, lui. Sur lui.
Il se promenait avec ça, lui, à 3 heures du matin.
Ouais. Puis poignardé plusieurs fois, mais il n'a pas réussi à percer la veste de cuir que portait Joe. Il est donc prouvé que c'est pas lui qui a porté le couteau fatal. Donc, il plaide coupable d'homicide involontaire, puis il est condamné à 7 ans de prison.
Mmh.
Il a purgé l'intégralité de sa peine puis a été libéré en 97. Fun fact, sa carrière criminelle ne s'arrête pas là.
Ah ouais?
3 ans après sa libération, donc il a été libéré en 97, en 2000, Patrick Moïse est impliqué dans un autre meurtre commis par une gang de rue de Montréal. Il est reconnu coupable de meurtre au premier degré et de 2 chefs d'accusation de tentative de meurtre. Il est toujours en prison aujourd'hui puis il pourra bénéficier d'une libération conditionnelle en 2027.
Ah ouais, fait que lui, il a pas mal viré.
Ça va pas.
Ça a mal commencé.
Ça a mal fini. Ouais, donc, après l'annonce publique de ces sentences assez clémentes envers les adolescents, on s'entend, Maurice Rose, le papa de Joe Rose, il est scandalisé.
Mmh,
avec raison.
Je comprends.
Selon lui, la loi sur les jeunes délinquants protège beaucoup plus les jeunes accusés que les victimes.
Mmh.
100%
d'accord. Ben oui,
100%. Là, je te parle de la loi sur les jeunes délinquants. On s'entend, vous me connaissez, j'ai googlé. Je vous fais un petit cours en un. Okay?
Ouais, vas-y.
C'est vraiment compliqué parce qu'il y a un historique incroyable de cette loi-là que je trouve un peu ridicule. La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ça s'applique aux 12 à 18 ans qui sont accusés d'une infraction criminelle. C'est un système de justice différent de celui des adultes. La loi vise la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents. Puis ils veulent éviter, dans le fond, le plus possible que l'adolescent accusé se rende au tribunal. Eux autres, c'est ça leur but. Okay. Donc là, Maurice Rose, lui, il lance une pétition pour modifier cette fameuse loi-là, parce que ça n'a pas le bon sens. Et après plusieurs années de lutte, il réussit à recueillir 1,5 million de signatures. C'est même rendu à Ottawa, ça a l'air, pour protester sur la colline du Parlement avec sa pétition. Il était vraiment engagé. Mais il était en colère, là, avec raison, oui. Collé. Donc, voici ce que lui voulait changer à la loi pour les jeunes délinquants. Il voulait, un, des peines plus lourdes. Deux, il voulait que les accusés soient soumis à un traitement psychiatrique obligatoire parce que dans la loi, ils ont le choix de la refuser, l'aide psychiatrique. Trois, il voulait que les noms des jeunes condamnés, mais juste ceux-là condamnés pour meurtre, crime sexuel ou autre agression violente soient publics. Et quatre, il voulait que les accusés de meurtre, de meurtre et de crime sexuel soient jugés comme des adultes. C'est ça que sa pétition a demandé.
Okay.
Donc là, sur le site educalois.qc.ca et sur, mon Dieu, j'ai tellement fait de recherches là-dessus, aucun sens. J'ai essayé de suivre, OK, la loi sur les jeunes contrevenants, ouais. Comment ça marche, OK? Ça l'a apparu en 1908. En 1908, okay. Ça s'appelait la loi sur les jeunes délinquants. Puis ça, c'était la faute, ils plaçaient toute la faute de ce que les jeunes avaient fait sur les parents. Donc, les jeunes n'avaient rien.
Ah oh, ouais?
C'était toute la faute des parents. Okay. Après ça, un peu plus tard, j'ai pas l'année exacte, mais ils l'ont modifié. Ça s'appelait la loi sur les délinquants juvéniles. Et ça, c'était plus sévère envers les jeunes, mais il n'y avait quand même pas d'option de prison pour les jeunes.
OK.
Après ça, en 85, il y a eu un projet de loi qui a été déposé pour apporter un équilibre entre la protection du public et les jeunes délinquants. Parce que c'était
ouais,
pas assez sévère.
Parce qu'il n'y a pas de peine du tout. C'est un peu
c'est ça. C'est nous, les gens qui commettent pas de meurtre.
Mm-hmm.
On est terrorisé par les adolescents qui peuvent faire n'importe quoi.
Qui peuvent commettre des meurtres, oui.
Sentir. Mm-hmm. Donc là, de ça, il y a une nouvelle loi qui a été faite, la loi sur les jeunes contrevenants, qui ont mis une peine maximale de 2 ans. Après ça, là, il y a eu le meurtre de Joe Rose en 89.
Ouais.
En 90, la pétition de Maurice Rose. Et lui, il gagne une partie de son combat sur les quatre demandes. Ouais. Ils ont changé en 94 la peine maximale à 10 ans.
Okay. Ouais.
Ce qui est quand même bien.
Mm-hmm.
Et là, en 2003, la loi sur les jeunes délinquants a été complètement supprimée. Donc, ils ont tout détruit, puis ils ont recommencé. Ça a été remplacé par la loi sur la justice pénale pour mineurs. La nouvelle loi, en 2003, elle n'a plus l'objectif de dissuader les jeunes de commettre des crimes, mais elle étudie des circonstances à l'origine de leur comportement. Donc là, ils vont vraiment creuser
l'évaluation psychiatrique. Ouais.
Exactement. On veut les soumettre à des conséquences significatives, les réadapter puis les intégrer dans la société le plus rapidement possible.
Mm-hmm.
En 2012, c'est mon dernier point, la loi est remodifiée pour revenir à l'objectif de dissuader les jeunes de commettre des actes criminels. OK.
OK.
Ce qui
okay. Faut quand même qu'il y ait un peu de dissuasion, mais oui, aussi beaucoup de psychologie, de psychiatrie.
Oui,
aussi.
Oui,
ouais.
100%. Donc, voici ce qu'elle en est aujourd'hui. Je vous ai fait un petit résumé. OK.
Okay.
Sous cette loi, quand il y a un jeune qui est accusé d'un acte criminel, le juge peut choisir parmi 7 types de peines à donner à un adolescent. Okay?
Okay.
Ce qui est quand même un peu frustrant parce que sont très, 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 très légères. Un avertissement.
Okay.
Deux, tu peux avoir une absolution avec ou sans condition. Des conditions peuvent être genre écrire une lettre d'excuse à la victime, faire du travail bénévole, bla, bla. Deux, une amende, mais ils ont établi un maximum de 1 000 $.
OK.
Pas grand-chose.
Non.
Quatre, des peines pour réparer les dommages. Exemple, verser une somme d'argent à la victime, rendre les biens qui ont été volés, etc. Cinq, du travail bénévole. Mais encore là, il y a un maximum de 240 heures sur 1 an. Ce qui est quand même très léger aussi. Quoi? Six, une probation. Donc, l'adolescent est en liberté, mais sous 2 conditions. La condition, c'est de bien se conduire et deux, de se présenter au tribunal à chaque convocation.
Mm-hmm.
C'est tout. Le juge peut aussi imposer d'autres conditions, genre pour entrer en contact avec certaines personnes, respecter un couvre-feu, aller à l'école, blablabla. Et sept, un placement sous surveillance dans un centre de réadaptation jeunesse. Donc, même avec une peine d'emprisonnement, un adolescent n'ira jamais dans une prison pour adultes.
Non,
ça a vraiment du sens.
Oui, ça a du sens. Correct.
Un adolescent peut quand même recevoir une peine pour adultes, mais c'est extrêmement rare. Puis il y a des conditions. Genre, il faut qu'il y ait 14 ans et plus, il faut que ce soit. Faut qu'il y ait un adulte qui aurait commis l'infraction qui pourrait recevoir une peine de plus de 2 ans.
Mm-hmm.
Bref, voilà ce qu'il y en a aujourd'hui. Donc, c'est les 7 options qu'un juge peut donner quand un adolescent est accusé d'un crime, incluant meurtre, viol,
ouais, ouais, tout.
T'es, fin de ma parenthèse sur la loi des jeunes de 20 ans. C'est parce que c'est vraiment compliqué, puis il y a tellement une historique étrange de « Ah, c'est des bébés, on veut pas leur donner trop de tapes sur les doigts. » Ah, oh, mais finalement, c'était quand même des êtres humains, puis c'est quand même des... Tu sais, ils ont un cerveau à cet âge-là.
C'est quand même... C'est des agresseurs puis des tueurs.
Exactement. C'est très mitigé, c'est... parce que c'est vrai que c'est des bébés, mais en même temps, c'est des adultes en devenir. Genre, à 18 ans, tu peux acheter tout ce que tu veux. Tu peux fumer une cigarette, tu peux aller dans les bars, tu peux boire de l'alcool, tu peux faire n'importe quoi à 18 ans. Fait que pourquoi à 17?
C'est comme à 17, si tu tues quelqu'un...
T'es chill.
T'es chill, mais à 18, ben là, 25 ans de prison. Ouais. C'est comme...
Puis en plus, à 17, tu peux juste faire... à 20, tu peux aller jusqu'à 20 ans dans un centre de détention
okay,
pour les jeunes.
OK, ouais, ils t'envoient pas, mettons, quand t'arrives à 18 à un...
Non, ils transfèrent pas.
Mais c'est quand même bien.
Ouais, ça, c'est correct. Ouais. Mais à 20 ans, ils transfèrent.
Ouais.
Donc, l'année... J'ai presque fini. L'année suivant la mort de Joe, ses parents ils poursuivent la Société de transport de la communauté urbaine de Montréal, la STCUM. Mm-hmm. Parce que, tu sais, aujourd'hui, c'est la STM.
Oui.
Pour que les gens comprennent, j'ai utilisé STM, mais en tout cas, bref. Pour négligence ayant causé la mort. Selon la réglementation de la Commission des transports, la STM a la responsabilité de transporter tous les passagers en lieu sûr.
Mm-hmm.
Pendant le procès, le juge a dit que l'attaque était prévisible puis que la chauffeur était fautive de ne pas avoir activé le système de sécurité plus tôt. Il a dit aussi que le système d'urgence de la STM est mal compris, probablement dû à ce qu'elle a dit, et protège les chauffeurs et non les passagers. Les parents de Joe demandaient 452 000 $ en dommages et intérêts. Ils ont reçu 25 000.
Bon.
Donc, j'ai fait un petit blitz de faits intéressants de l'après.
Ouais.
L'assassinat de Joe Rose a alimenté la lutte pour la légalisation du mariage entre personnes du même sexe. Le mariage civil est légalement reconnu au Canada le 20 juillet 2005.
Oui.
Ça fait pas tant longtemps.
Non, ça va faire 20 ans.
Même pas 20 ans.
Ouais, c'est ça.
Le 12 novembre 2019, pour commémorer les 30 ans du meurtre de Joe Rose, il y a une proposition qui a été présentée à la ville de Montréal par Matt McLaughlin. J'ai vraiment peur de manger son nom. C'est un travailleur social militant des droits des homosexuels. Lui, il voulait nommer la place à côté de la station de métro Frontenac, la place Joe Rose.
Mm-hmm.
Je ne sais pas ce qui est devenu de cette proposition-là, mais de ce que je sais, ça ne s'appelle pas comme ça.
Ben, il y a la place Frontenac.
Mais c'est ça, lui, il voulait que ce soit la place Joe Rose.
Moi, je suis d'accord.
Moi aussi.
Mm.
Je vois pas qui serait contre. Il y a aussi un fun fact, le Canada a décriminalisé les relations homosexuelles en 69. Avant ça, une relation entre personnes du même sexe constituait un crime passible de 5 à 14 ans de prison.
C'est capoté.
En 69, genre nos parents étaient nés, là.
Ouais.
C'est capoté, c'est ridicule. Puis aussi, un fait un peu plus positif, en 2021, on a observé la plus faible réduction en 5 ans du nombre de nouvelles infections VIH dans le monde par rapport à 2020.
Yeah.
Donc, ça décrease. Ouais, ça diminue.
Ça diminue, ouais.
Et voilà, c'est mes fun facts de folie. En fait, ce qui est frustrant avec ce cas-là, c'est. J'en ai pas beaucoup parlé, mais. J'en ai pas parlé du tout, en fait. C'est que dans les médias, quand ça s'est arrivé, on parlait de violence, de manque de sécurité dans les autobus. Mm-hmm. On parlait des gangs de jeunes de rue. On parlait de crimes raciaux, mais on n'a jamais mentionné un crime homophobe. C'est ça qui a comme alimenté la colère.
Oui, alors que c'était 100% ça.
C'était. Il n'y a c'était rien d'autre ça. Que ça. Oui. Mais dans les médias, puis tous les articles de journaux que j'ai lus, de l'époque, même quasiment aujourd'hui, ça c'est jamais mentionné que c'est un crime homophobe. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il y a des séries comme Le Village. Mm. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui sortent maintenant.
Oui.
Parce que j'ose croire que l'homophobie est moins présente aujourd'hui qu'avant. Mm-hmm. Peut-être que c'est moi qui se mets la tête dans le sable, mais...
Ben non, vraiment, je pense, là.
Fait que c'est ça qui est vraiment... Puis, tu sais, sur les médias, là, j'aurais pu en dire et en dire et en dire. Mm-hmm. Ça, la police, le gouvernement, les médias, c'était tout contre la communauté. Fait que c'est pour ça qu'il y a autant de choses qui sont émergées de tout ça.
Ben, c'était comme la grosse goutte qui fait déborder le vase, là.
Ouais.
Tu sais, déjà, la communauté était plus capable.
Non, il était déjà à bout. Puis non, c'est avec, 17 meurtres d'homosexuels dans le village. C'est assez pointé. C'est très niché.
C'est un petit milieu, là.
C'est un très petit milieu. Ouais. Tout le monde se connaissait. J'ai écouté beaucoup d'entrevues sur des passants dans la rue qui se faisaient interviewer, comme dans les années 90, qui disaient le mode de Juros. Puis tout le monde disait, je le connaissais, je le connaissais. C'est fou. Fait que c'est pour ça que c'est un cas qui a été extrêmement marquant pour la communauté dans les années 90. Voilà.
Ah, mais bravo!
J'ai vraiment... J'espère que ça vous a instruit un petit peu puis ça vous a aidé à comprendre.
Oui, c'était vraiment intéressant. Même moi, tu sais, je connaissais l'histoire, mais j'avais quand même oublié des détails. Puis j'ai appris plein de choses.
Yay!
Yay!
Ça me fait comme un nouveau devoir de...
Ouais.
D'avoir comme un petit cours 101 de quelque chose à chaque fois. J'essaie d'apprendre. Mais c'est parce que souvent, tu sais, comme on le sait pas qu'est-ce qu'on dit.
Mm-hmm.
Tu sais, comme j'ai parlé du VIH, puis automatiquement, tu as dit, tu sais, sans. Tu as fait, il y avait le sida.
Ouais.
Pas nécessairement. Tu sais, moi, je ne savais pas c'était quoi la différence. Puis je me dis, à chaque fois que je google quelque chose, je dois pas être la seule à le googler.
T'sais. Ben non. Non.
Fait que voilà, c'est mon petit grain de sel que j'apporte à nos centaines de milliers d'auditeurs. Fait que voilà, fait que bonne pride, la gang.
Ben oui, bon mois de la fierté.
Puis
oui,
on se revoit
dans deux semaines,
probablement. Comme
ben,
d'hab.
Ben, comme d'hab. On reprend comme...
Toujours pourri pour conclure nos épisodes.
Oui, toujours aussi pourri. On s'est pas amélioré pendant nos vacances.
Non, pas du tout.
Non.
Bye.
Bye.